Voilà, on va peut-être commencer. On va peut-être dire une petite prière pour entrer dans ce temps. On va peut-être un Notre Père, tout simplement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc, je me présente tout d'abord rapidement. Donc le père Florian Racine, je suis du diocèse de Toulon, Fréjus Toulon. J'étais prêtre, ça fait 10 ans que je suis prêtre. J'étais prêtre dans la paroisse de Sanary-sur-Mer pendant une dizaine d'années à peu près. Et actuellement je suis à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Voilà, c'est la basilique de Marie-Madeleine. Beaucoup m'ont posé des questions dessus. Vous savez, selon la tradition provençale, Marie-Madeleine est venue avec la famille de Béthanie. Ils sont venus, ils sont arrivés au Sainte-Marie de la Mer. Marthe est partie vers Tarascon, évangéliser, chasser la Tarasque. Lazare, évêque de Marseille. Maximin, un des 72 évêques d'Aix. Et Marie-Madeleine a passé 30 ans dans la mission à Marseille, en évangélisant, et dans la contemplation et la solitude, dans la grotte de la Sainte-Baume. Voilà. Et juste avant de mourir, elle est redescendue et elle est morte, en fait, entre la basilique, enfin entre Aix-en-Provence et la grotte où elle vivait. Et il y a son tombeau qui a été donc établi dans cette petite ville qui s'appelle Saint-Maximin. Voilà. Donc, je suis curé là-bas. Si vous allez sur l'autoroute après Aix en direction de Nice, à peu près 15 minutes après Aix, vous voyez une grande basilique à droite. C'est ce qu'on appelle le troisième tombeau de la chrétienté. C'est un tombeau, ça a été un peu oublié, ce lieu, mais c'était un des hauts lieux de pèlerinage pendant tout le Moyen-Âge, à partir du moment où on a redécouvert les reliques de Marie-Madeleine. Je ne veux pas vous parler trop de Marie-Madeleine, ce n'est pas l'objet de notre petit partage, mais c'était juste pour resituer. Voilà. Enfin, j'en profite quand même pour faire une parenthèse. Cet été, on organise du 19 au 24 juillet. Certains l'ont vu dans le Brasier Eucharistique, la petite revue là qu'on publie, un congrès sur la miséricorde. Avec Marie-Madeleine, il y a une vraie grâce de miséricorde. Et on fait venir des grands témoins qui ont fait une grande expérience de la miséricorde. Hein, il y en a une dizaine, vous pourrez les trouver sur le site. Et voilà, c'est une sorte de congrès avec des temps d'enseignement, des temps de témoignage, des temps de prière, bien sûr. Dans ce lieu, vous êtes tous, bien sûr, invités. Alors, pour parler un petit peu de l'adoration, je vais reprendre les trois dimensions, le qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce qu'adorer. Ensuite, on verra rapidement le pourquoi adorer. Et enfin, on verra un petit peu comment adorer. Voilà. On va faire ça assez rapidement. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Mais j'aime bien commencer par témoignage qui s'est passé pendant les journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Alors, j'étais pas aux dernières journées mondiales. À Rio, je sais qu'il y avait un temps d'adoration, mais à Madrid, il s'est passé quelque chose de bien, bien étonnant. Les journées mondiales de la jeunesse durent normalement une quinzaine de jours. On est d'abord dans les diocèses avec les jeunes qui viennent de tous les diocèses du monde. Et on était dans un diocèse, donc en Espagne, et puis ensuite on termine, vous savez, dans la ville principale où le Saint-Père arrive, et il y a toujours cette grande conférence, dans cette grande soirée de prière, qui clôture un petit peu les journées mondiales de la jeunesse, la grande messe d'envoi le lendemain, mais on va dire que cette soirée fait partie des moments les plus intenses des journées mondiales. Et alors, moi je m'occupais de mon groupe, le groupe de Toulon. On était 1000 jeunes, enfin, toute une équipe de prêtres organisait tout ce groupe. J'avais regardé la météo, il disait qu'il allait faire beau. comme il avait fait très chaud pendant 15 jours, j'avais dit aux jeunes, surtout vous inquiétez pas, parce qu'on passait la nuit à la belle étoile, mais il va faire très chaud, comme toutes les nuits où il avait fait très chaud. Et alors on attend toute la journée, on arrive à 5 heures du matin, vous savez, pour essayer de s'approcher un peu plus du pape, c'était au moment de Benoît XVI encore, et journée caniculaire, et ensuite, au moment où le pape arrive, vous pouvez imaginer l'euphorie, la joie, l'enthousiasme de tous les jeunes de voir enfin la soirée commencer. À peine le pape fait le signe de croix qu'on entend un grand coup de tonnerre avec un coup de vent qui arrive par derrière. On se retourne et on voit que ce ciel qui avait été bleu toute la journée, eh bien, est d'un coup noir. Et voilà qui se met non seulement à avoir du tonnerre, de la foudre, et en même temps, il se met à pleuvoir, mais une sorte de tempête avec la pluie qui arrivait en horizontale, vous savez, tellement qu'il y avait du vent. Et alors, à peine la veillée commençait, qu'on est pris dans cette tempête qui arrête immédiatement la soirée qui venait juste de commencer, et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous donnes? Il y a tous ces jeunes qui sont là, et voilà que déjà la soirée est en train de tomber à l'eau. Hein, voilà. Alors, on va passer 15 minutes un peu pénitentielles, vous savez, 15 minutes de on était serré, on sentait, il y avait la foudre, le tonnerre, il y avait du vent, il faisait d'un coup, il s'est mis à faire froid, même en plein été là-bas, et on s'est dit, on se sentait un petit peu comme, vous savez, dans l'évangile, de la tempête sur le lac. Les disciples sont dans cette barque qui est secouée par les vagues, ils sentent que ça va couler, et il y a Jésus qui est là, qui dort tranquillement. Et alors, on passait ce temps-là, et à un moment, ça s'est un peu calmé, le pape est venu, il y a le grand ostensoir de Tolède, un ostensoir absolument magnifique, qui fait 3 mètres de haut, qui sortait de du chapiteau, là, et le pape est venu avec la lunule, il a déposé la lunule, et au moment où il dépose la lunule, eh bien, il s'est mis à faire un calme de manière soudaine qui a tout simplement mis les jeunes en adoration, à genoux devant le Seigneur, de manière naturelle, spontanée. En d'autres mots, de même que Jésus, dans l'Évangile, va dire à la tempête « Calme-toi !» Et il est dit qu'ils se prosternèrent devant Jésus tellement qu'ils ont vu le contraste entre la violence de la tempête et le calme au moment où Jésus commande les éléments du ciel, de la terre, qu'ils ont adoré. Et nous, c'est l'expérience qu'on a faite pendant 15 minutes, 20 minutes, tous les jeunes étaient à genoux. Moi, ceux que j'ai pu voir, en tout cas, qui étaient autour de moi, eh bien, étaient dans une prière extrêmement touchante et extrêmement fervente, on va dire, ils vont passer 15-20 minutes dans l'adoration. Et juste après, le pape était là, à genoux, dans l'adoration lui aussi, il a pris ensuite le Saint-Sacrement, il a fait un geste de bénédiction, et dès que la bénédiction était terminée, la tempête est revenue de plus belle, et c'était terminé pour notre soirée. Ils avaient lancé des feux d'artifice, mais qui n'arrivaient pas à partir tellement qu'il y avait de la pluie et du mauvais temps. Mais la fête, vous voyez, avait été ailleurs. La fête pour les jeunes qui étaient là avait été ailleurs, parce que combien de fois les enseignements des évêques et du pape avaient été que la foi chrétienne, c'est pas d'abord des principes, c'est pas d'abord des doctrines, c'est pas d'abord une morale, c'est d'abord une rencontre avec Jésus vivant, Jésus ressuscité, et en fait le Seigneur, ben, il nous a donné juste hein, ce temps-là, dans cette grande veillée. Je pense que c'est comme un signe hein, du temps que le Seigneur nous donne, et j'étais assez étonné de voir dans les remontées en fin de journée mondiale de la jeunesse, des jeunes que j'accompagnais, qui pour une bonne partie avaient été profondément touchés, comme le moment le plus important de ces JMJ, c'était ce quart d'heure d'adoration devant le Seigneur. Alors ça me paraît important de rappeler ça, parce que c'est un petit peu toute la génération à venir, hein, que le Seigneur, à mon avis, forme dans cette prière silencieuse, contemplative, que l'on appelle de l'adoration. On peut faire une rencontre avec Jésus vivant. Jésus qui est bien là, qui est certes caché sous les apparences du pain, mais qui est bien vivant et qui va agir dans mon cœur. Hein, l'Eucharistie, c'est cette nourriture vivante et vivifiante. Il est vivant dans l'Eucharistie et il vient me vivifier dans ma vie spirituelle pour faire de moi un chrétien vivant, un chrétien, un apôtre, un missionnaire, un témoin. Mais j'ai besoin de cette rencontre de Jésus. Je disais un petit peu ce matin pendant la messe que le pape François, dans son encyclique, il a pris ces deux termes, disciples et missionnaires, et il a montré qu'ils doivent être liés, qu'ils sont interdépendants. Le disciple, c'est littéralement celui qui se met à l'école, c'est celui qui se met à l'école de Jésus, celui qui va écouter la parole, celui qui va laisser Jésus agir dans son cœur, celui qui va laisser Jésus parler à son cœur, qui remplit son cœur de l'Esprit Saint. Et le missionnaire, c'est celui qui va annoncer ce qu'il a reçu. C'est pas, il va pas s'annoncer lui-même, le missionnaire, mais il a besoin d'abord d'être disciple pour être un authentique missionnaire. Et donc le pape François nous montre que ces deux termes vont vraiment ensemble. On a besoin d'être des disciples en prenant du temps dans la prière, dans la contemplation du visage du Christ pour être des vrais témoins, des vrais missionnaires. Voilà. Alors, ensuite, pour rappeler un tout petit peu qu'est-ce que l'adoration, vous savez, il y a l'adoration dans son sens universel. C'est, on va dire, dans l'Ancien Testament, c'est le grand commandement, l'adoration de Dieu. Dieu seul mérite d'être adoré. C'est cet émerveillement devant la majesté de Dieu, source de mon être. Si Dieu m'oublie une seconde, je disparais dans le néant. Si j'existe, c'est parce que Dieu me maintient en existence. Son amour est là, tout autour de moi. Donc c'est reconnaître qu'on n'est pas Dieu, hein, qu'on n'est pas plus grand que Dieu, évidemment, mais qu'on est enfant de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est l'adoration dans son sens universel, l'adoration générale. Ensuite, il y a l'adoration chrétienne. Ben, c'est Jésus qui me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il nous dit qu'en fait, si vous voulez adorer le Père, il faut passer par Jésus. Et Jésus nous dit, voilà, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pour adorer le Père Tout-Puissant, eh bien, nous devons passer par Jésus-Christ. Et dans ce mouvement de passer par Jésus, qui va être exposé dans quelques instants, eh bien, nous adorons le Père et nous recevons l'Esprit-Saint. Vous voyez, l'adoration, même si ça, apparemment, c'est statique, rien ne bouge, rien se passe, en fait, il y a un immense dynamisme, c'est le dynamisme trinitaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est là devant Jésus, mais Jésus, eh bien, porte mon adoration vers Dieu le Père et me comble de son Esprit Saint qui fait de moi un missionnaire. Tout ça, c'est pas du sensible, parce que le sensible, c'est pas du spirituel, même si souvent Jésus touche le sensible, on verra un peu après avec le comment adorer, mais le Seigneur agit de cette manière-là. Alors, adoration chrétienne, c'est j'adore Dieu par Jésus. Voilà, je reçois l'Esprit Saint. Et après, l'adoration eucharistique, pour dire les choses de manière simple, c'est tout simplement que Jésus, dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, Jésus adore le Père. Il continue de faire ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il a adoré le Père et il a sauvé les hommes. Et aujourd'hui, au tabernacle, dans l'Eucharistie, Jésus adore le Père, Jésus sauve l'humanité, rend présent ce salut au tabernacle. Jésus laisse au tabernacle sa grande adoration du Père. Et quand je viens adorer le Saint-Sacrement, j'entre dans un mouvement qui fait qu'en fait, c'est cette adoration de Jésus. Pour donner une image très simple, quand je suis venu ici, j'ai pris le TGV d'Aix-en-Provence, en 3 heures, hop, on est à Paris. On n'a pas grand-chose à faire, il faut être là au bon moment, on prend le train, et 3 heures après, on arrive au but. Et en fait, voilà, c'est un petit peu la même chose dans l'adoration, il faut y aller, il faut venir devant Jésus, on est là, on fait une salutation du Seigneur, on pose un acte de foi, un acte d'amour, et puis ensuite, en fait, c'est Jésus qui prend notre adoration. On rentre dans ce mouvement d'adoration de Jésus qui me conduit vers Dieu le Père. Et en d'autres mots, eh bien, par cette adoration de l'Eucharistie, en fait, c'est Jésus qui me prend avec toutes mes limites et qui me conduit vers Dieu le Père, qui me comble son Esprit Saint. Hein, on peut dire la différence entre le TGV et l'adoration eucharistique. Le TGV, il faut quand même payer, alors que l'adoration, c'est Jésus qui a payé. Vous voyez, c'est Jésus qui a payé en donnant sa vie sur la croix, de sorte que, eh bien, aujourd'hui, on est ce don gratuit. C'est Jésus qui est là, présent, jour et nuit, qui se rend disponible à nous pour qu'on puisse entrer dans cette prière de Jésus, qui est la prière qui nous conduit vers Dieu lui-même. Donc ça, c'est un petit peu le sens, vous voyez, de cette adoration eucharistique. Alors, pourquoi adorer? J'aimerais reprendre peut-être quelques petits témoignages très simples de quelques saints. D'abord, j'aime bien rappeler un témoin qui a été béatifié ou canonisé, d'ailleurs, je crois plutôt canonisé, par le pape Benoît XVI, qui était Saint Damien de Molokai. Est-ce que vous avez entendu parler de l'apôtre des lépreux ? Voilà, alors c'est un grand apôtre et un prêtre du 19e siècle qui est parti évangéliser dans l'archipel d'Hawaï, là-bas. Et puis il s'occupait de l'éducation des personnes dont il avait la charge. Et puis un jour il apprend que tous ceux qui sont envoyés à tous ceux qui sont atteints de la lèpre, eh bien vont devoir partir. Ils sont envoyés dans une île, un peu une île du non-retour, l'île de Molokai, et dans cette île, eh bien, ils sont condamnés à mourir dans une grande misère physique, hein, aucun soin physique, misère morale, c'est tout et n'importe quoi, il n'y avait pas d'ordre, pas de loi et tout ça, et puis surtout une misère spirituelle, mourir sans connaître Dieu, sans connaître son amour. Et lui, il sent l'appel d'aller dans cette île, d'aller donner sa vie à ces lépreux, sachant que s'il y va, il ne reviendrait jamais. Donc il part là-bas, bon, c'est toute une histoire, c'est compliqué pour qu'il obtienne la permission de ses supérieurs. Et qu'est-ce qu'il fait en arrivant ? Alors on a retrouvé plusieurs lettres, mais ce qu'il a fait en tout cas, c'est qu'il a, voilà, il a reconstruit des autels, un peu comme Saint François d'Assise qui reconstruisait ces petites chapelles pour que Jésus soit aimé, adoré dans l'Eucharistie. Et ensuite, il construit un autel et il célèbre une messe, il expose le Saint-Sacrement et il va faire venir les lépreux, les uns après les autres, en reprenant, vous savez, ce passage biblique où il est dit, un lépreux vient voir Jésus, tombe à Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu ? Je veux être guéri. Jésus le toucha, il repartit guéri. Et il reprend ce passage en faisant venir les lépreux, un par un, ceux qui étaient là. Et alors peut-être que les lépreux n'ont pas été guéris dans leur chair, mais ils ont fait cette rencontre. Voilà, cette rencontre. Ils ont fait l'expérience de cet amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont découvert combien ils sont aimés, qu'ils sont fils de Dieu, et que même s'ils ont cette maladie, cette épreuve terrible, eh bien, ils sont précieux, uniques, aimés de Dieu, et que Dieu, voilà, se donne à eux à travers l'Eucharistie. On a retrouvé certaines lettres de ces lépreux qui expriment, voilà, combien ils avaient découvert l'amour du Seigneur. Et alors, Père Damien de Molokai, eh bien, il organisait l'adoration perpétuelle avec des lépreux. Hein, on a trouvé ça, l'adoration perpétuelle, jour et nuit, les lépreux venaient prier devant Jésus au Saint-Sacrement. Alors Saint Damien, souvent, écrivait à ses frères de communauté, il disait, c'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position comme la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, eh bien je continue d'être toujours heureux, content, avec cette gaieté de cœur et le rire sur les lèvres, je travaille avec zèle au bien des pauvres, malheureux, lépreux, et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis, avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de sa créature, comme à la plus grande. Ne craignez donc pas, dans des conversations solitaires, de l'entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances. Faites-le avec confiance et à cœur ouvert. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est cette première dimension qui est la plus concrète, la plus palpable, j'ai envie de dire, de l'adoration. On vient rencontrer le Seigneur, c'est une rencontre personnelle, et on vient déposer au pied du Seigneur, voilà, notre vie, nos épreuves, nos souffrances, nos difficultés, et Jésus qui, dans l'Eucharistie, il y a une puissance de transformation, il transforme du pain en son corps. Juste avant, comme je rappelais ce matin, il a transformé la haine en amour, la mort en vie. Cette transformation, il l'accomplit dans mon cœur, dans ma vie. Je lui présente tout ce qui est lourd, pénible, ingrat, et le Seigneur me relance, me renouvelle dans son amour. Donc ça, c'est cette dimension assez naturelle. Pensez à cette femme qui vient, qui touche Jésus, le manteau de Jésus par sa foi, et Jésus sent cette force qui est sortie de lui, qui dit « Qui m'a touché ?» Notre foi touche le cœur de Jésus, libérant sa puissance, son amour guérissant sur nous, notre famille et le monde entier, chaque fois qu'on vient passer du temps avec Jésus. C'est Jésus qui déverse son Esprit Saint. Alors, une autre grâce, donc ça c'est une grâce assez personnelle, on va dire. Maintenant, dans l'Eucharistie, rien n'est personnel. C'est-à-dire que c'est toujours ecclésial. Enfin, si, c'est personnel, on va dire, c'est pas individuel, c'est personnel. Enfin, on va pas jouer avec les mots, mais c'est une personne qui rencontre une personne, mais en même temps, c'est le corps du Christ, Jésus, l'Eucharistie. Et donc, il y a une solidarité plus grande que le Seigneur va créer à travers cette présence. Vous voyez, vous touchez le cœur de Jésus par votre foi. Le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu, et Dieu touche tous les cœurs de l'humanité. Alors, lorsque j'ai reçu cet appel pour être prêtre, en fait, moi, je travaillais, j'ai fait des études ici à Paris, de travaux publics, puis après, je suis allé étudier aux États-Unis, voilà, pour essayer d'apprendre l'anglais un petit peu. On m'avait toujours dit, vous savez, différence entre un bon et un mauvais ingénieur, c'est son niveau en anglais, s'il parle pas anglais, il est bon à rien et tout ça. Moi, je me souviens de ça dans mes cours, pas grand chose d'autre. Et alors, je me suis dit, comme j'étais nul en anglais, je me suis dit, faut absolument que j'aille apprendre l'anglais. Alors, je suis parti aux États-Unis et, là-bas, au Texas. Et puis, c'est là-bas que, le Seigneur, m'a appelé aussi pour être prêtre. C'était pas prévu au programme, ça, vous pouvez imaginer. Et, c'est là que j'ai reçu l'appel. D'ailleurs, c'était à Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est au Mexique, c'est juste à côté. Voilà, j'ai ressenti un appel très fort, la Vierge Marie. Je fais une petite visite touristique de Mexico. Faut se méfier de ce genre de visite en allant dans les grands sanctuaires de Marie. Et c'est là que j'ai ressenti l'appel, Marie qui m'a dit, Florian, je veux que tu sois prête. Voilà, c'est tombé comme ça, c'était clair, net, précis, et c'était réglé. Je savais que j'étais appelé à être prêtre. Il y avait toute la liberté, parce que Dieu ne force jamais, il nous laisse toujours libre de dire oui ou de dire non, mais en même temps, c'était très clair. Et alors, donc entre-temps, j'avais fini mes études là-bas, je travaillais à Houston, et je m'étais engagé dans un boulot, et puis ensuite, je me suis dit quand même, si maintenant je suis appelé à être prêtre, je vais aller un peu plus souvent à la messe. Et alors, j'allais le dimanche déjà. Et là, je me suis dit, je vais essayer d'y aller tous les jours. Alors, là-bas aux États-Unis, c'est très bien organisé, comme toujours. Entre midi et 1h, il y a la pause repas. Et donc, à 12h05, dans toutes les églises à peu près, vous avez une messe. Alors, une messe ultra courte. Le strict minimum pour que ça soit valide, c'est 15-20 minutes la messe, mais les personnes qui veulent, terminent le boulot à midi. À 12h05, il y a une paroisse à la messe jusqu'à 12h20, 12h25, et ensuite on a le temps d'aller prendre un Big Mac ou un hot dog ou un je sais pas quoi, et on retourne au boulot à 1h. Et alors il y avait une dame qui voulait absolument avoir l'adoration perpétuelle dans sa paroisse, et le curé lui avait demandé d'aller chercher des adorateurs en rencontrant les paroissiens. Et alors elle essayait à la fin de chaque messe d'aller rencontrer une personne nouvelle pour lui parler de l'amour infini de Jésus au Saint-Sacrement. Et alors une fois elle m'a rencontré, elle me voyait, j'étais là souvent, et elle me dit, tu sais, l'Eucharistie c'est pas une chose, l'Eucharistie c'est une personne, c'est plus qu'une personne, c'est un cœur, il nous aime, il est là, il a soif d'être aimé en retour, est-ce que tu veux pas prendre 1 heure d'adoration? Vous voyez, c'était comme ça qu'elle faisait à sa manière. Et donc j'ai commencé l'adoration grâce à elle, en fait. Et je me souviens, j'adorais un matin très tôt, et l'adorateur avant moi, on se croisait, et il me disait, pour moi, l'adoration perpétuelle, c'est comme être sur un grand bateau de croisière. Et alors il m'explique, oui, dans un... Je sais plus comment il m'a dit, c'est ça. Reste de souvenirs, mais ça s'est passé. Et ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est que, il expliquait que le moteur spirituel de la paroisse, c'est le cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Et dans un bateau, il y a une personne qui fait tourner le moteur, qui est là, mais puis il y a tout le bateau qui avance. Et de la même manière, il y a un adorateur qui prie, mais il y a tout le monde qui reçoit des fruits, vous voyez, qui est comme... spirituellement renouvelé, stimulé, et il y a des grâces pour toute la paroisse. Et c'est vrai que Paul VI, d'ailleurs, parlait lui aussi de l'Eucharistie, centre spirituel de la paroisse, moteur de notre paroisse. Plus nous posons des actes de foi dans Jésus, l'Eucharistie, plus Jésus déverse sa puissance. Voilà, cette puissance qui trouve sa source dans l'Eucharistie, mais à nous de poser l'acte de foi. J'en profite pour faire une petite parenthèse. C'était à propos de Saint-Pierre, Julien et Aymar, qui a fondé cette communauté des Pères du Saint-Sacrement. Et alors, Saint-Pierre, Julien et Aymar disaient, il exposait le Saint-Sacrement en disant, maintenant on va faire travailler le Saint-Sacrement. Voilà, dans dans une demi-heure, là, trois quarts d'heure, on va faire travailler le Saint-Sacrement. En gros, on pose Jésus sur l'autel, ensuite on se met là devant lui et on laisse Jésus travailler parce que par notre foi, on y croit, on est là et Jésus ne peut pas ne pas agir dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, dans le monde. Et ensuite, Saint-Pierre, Julien et Marc avaient une expression assez bouleversante qui en soi, on la comprend même si elle est fausse, mais on comprend ce qu'il veut dire. Il disait, malheureusement aujourd'hui, il commentait, vous savez, ce passage de Jésus qui vient à Nazareth, et il disait là, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'avait pas la foi. Et il disait, aujourd'hui, notre Église, c'est un peu comme Nazareth. Il y a Jésus qui est là, bien vivant, il vient avec toutes les il veut faire des merveilles dans nos cœurs, mais si on prend pas le temps pour aller le rencontrer, l'aimer, l'adorer, eh bien c'est comme si, voilà, on a du temps pour toute chose et tout le monde, mais si on n'a pas de temps pour lui, eh bien Jésus ne peut pas faire les miracles qu'il veut faire parce que voilà, on n'a pas cette foi pour aller le rencontrer, l'aimer, l'adorer. Alors il disait aujourd'hui, souvent Jésus est stérile dans l'Eucharistie. Alors il n'y a aucune stérilité possible dans l'Eucharistie, au contraire, c'est le sacrement de la fécondité, hein, de la vie divine, de l'élan missionnaire, ça trouve sa source dans l'Eucharistie, mais voilà, si on ne va pas le rencontrer, si on n'y croit pas, eh bien Jésus est là, mais il ne peut pas déployer hein, toutes ces bénédictions qu'il veut nous donner. Alors, voyez, donc dans l'Eucharistie, j'insistais ce matin sur ce passage de Moïse qui luttait contre les Amalécites. Il y avait un vrai combat. Moïse intercède. Quand il intercède, Dieu donne la victoire. Quand il baisse les bras, ben c'est le contraire. C'est les ennemis qui ont la victoire. Donc il demande à Aaron, à Our, de maintenir ses bras levés et de sorte que, voilà, que Dieu donne cette vraie victoire à ce peuple. Alors, nous aujourd'hui, bon, c'est pas un combat du même ordre. C'est un combat spirituel qui est bien réel. Entre la lumière, les ténèbres, et ce combat, il faut bien sûr le mener, mais on voit que les intercesseurs, c'est eux qui demandent à Dieu la victoire. Il faut se battre pour vivre l'Évangile, hein, pour transmettre tout ce que Jésus nous donne dans les béatitudes. C'est tellement extraordinaire, mais en même temps, on a besoin d'intercesseurs, de priants, de veilleurs. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, hein, je veux dire, par l'adoration, d'heure en heure, de personne en personne, chacun est un maillon de cette chaîne d'intercession, de sorte qu'il y ait une personne qui intercède pour tous ceux qui sont dans la vie, en train de vivre au mieux tous les jours, et pour qu'ils soient vainqueurs, vous voyez, de ce combat que l'on mène tous les jours. Le pape Jean-Paul II disait que les chrétiens sont, les adorateurs sont posés sur les fractures de l'humanité. Vous voyez, là où l'humanité est blessée, là où le mal peut rentrer, eh bien les adorateurs sont comme mystiquement, vous voyez, déposés dans ces lieux de fracture. Hein, il avait une homélie assez intéressante où il montrait que, voilà, par l'adoration, eh bien on est présent là où il y a des blessures. Et c'est le pape François, je rappelais ça un petit peu ce matin aussi, qui, lorsqu'il était à Assise, il avait comme toujours une homélie qui avait été préparée, mais vous connaissez son habitude, ce qui est préparé, il le met à la poubelle, il improvise un truc comme ça qui est génial, et avec sa manière, sa liberté de parler. Et alors, il était dans un lieu où il y avait l'adoration, et en même temps un lieu où il s'occupait d'un orphelinat, où il y avait on accueillait des personnes en grande souffrance. Et il montrait bien qu'il faut, voilà, pouvoir passer de Jésus qui est crucifié sur la croix et qui est rendu présent dans l'Eucharistie, à Jésus qui est crucifié dans le prochain. Et pour passer de l'un, voilà, et on a besoin de passer de l'un à l'autre. Mère Teresa de Calcutta disait ça différemment. Elle disait, nous devons passer de leur sainte avec Jésus à leur sainte avec le plus pauvre. Alors lorsque Mère Teresa de Calcutta a commencé sa communauté, il y avait tout simplement pas suffisamment de religieuses, pour s'occuper de toute la misère hein, de Calcutta. Et alors elle passait d'heures dans la journée, on va dire. Et alors elle n'arrivait pas, elle s'en sortait pas. Et elle en veut un peu au bon Dieu, elle dit, mais Seigneur, tu me demandes une mission, mais j'ai pas suffisamment de temps pour le faire, que faire ? Et elle reçoit dans son cœur qu'il faut adorer davantage. Vous voyez, passer de temps pour faire ce qu'elle doit faire, donc il faut prier davantage. Ça, c'est la logique de Dieu, hein, qui est toujours étonnante et surprenante pour nous. Et alors, elle témoigne qu'à partir du moment où elle a commencé à vivre cette heure d'adoration quotidienne, religieuse, hein, je veux dire, donc voilà, sa mission, eh bien, le Seigneur a donné les vocations dont elle avait besoin pour pouvoir subvenir, j'ai pas envie de dire à toute la misère de Calcutta, loin de là, mais quand même aux appels, hein, que le Seigneur lui donnait. Et en même temps, elle a pu fonder cette communauté qui s'est répandue dans combien de villes où on a ces religieuses qui peuvent s'occuper des plus pauvres. Alors, Mère Teresa de Calcutta parlait des trois grâces qu'elle recevait dans l'adoration. Elle dit ceci: « Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, nous nous sommes aperçus d'un changement dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond pour le Christ à travers le masque affligeant des pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître, mieux connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis que nous avons commencé cette adoration du Saint-Sacrement, nous n'avons pas diminué notre travail, nous y consacrons autant de temps qu'apparavant, mais avec plus de compréhension. Les gens nous acceptent mieux, ils ont faim de Dieu. Ils n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus. » En d'autres mots, on pourrait dire que les trois grâces qu'elle reçoit, d'une part, une vraie charité pour, dans son devoir d'État, j'ai envie de dire dans sa vie religieuse, avec les religieuses avec qui elle vivait. Et nous, on reçoit cette grâce pour vivre, avoir toujours un nouveau regard sur notre conjoint, sur celui que nous connaissons le mieux, sur celui avec qui nous pouvons vivre une vraie charité, avec qui nous avons un vrai chemin de sanctification à faire. Et puis, deuxième grâce, elle explique qu'en reconnaissant, en discernant sous les apparences du pain la présence de Jésus, elle reçoit comme une grâce de reconnaître la présence de Jésus dans son prochain, dans le plus pauvre, comme une grâce eucharistique, vous voyez, de contempler Jésus dans l'Eucharistie pour le reconnaître dans le plus pauvre. Et enfin, troisième grâce, voilà, les gens n'ont plus besoin de nous mais de Jésus. C'est Jésus qui vient prendre la première place. Elle ne donne plus elle-même, mais Jésus, hein, par elle-même, bien sûr. Le pape Benoît XVI avait des paroles très belles dans Deus Caritas Est. Il disait: « La prière comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ devient ici une urgence tout à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement à l'action. La piété n'affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. » Voilà. Lorsqu'il était à Rio, il commentait ce passage de Marthe et Marie, hein, il disait que voilà, on a besoin d'abord d'être Marie, pied de Jésus, d'écouter sa parole, contempler le Seigneur, de l'adorer, pour pouvoir recevoir de Dieu sa volonté, voilà, hein, ou son regard sur une situation, et en même temps la grâce d'accomplir sa volonté. Il expliquait que si on est uniquement Marthe, donc dans l'action, dans le service, dans la charité concrète, on risque de faire notre volonté pour Dieu, vous voyez, mais qui est différente, peut-être, pas toujours, souvent, je ne sais pas, qui est différente de la volonté de Dieu. Voyez. Et souvent, c'est vrai que nous, chrétiens, on se disperse un peu dans beaucoup d'œuvres très belles, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu me demande? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas sauver le monde, hein, je ne suis pas Jésus. Voilà. Mais le Seigneur, il me demande, et il va m'aider, voilà, à vivre une mission bien particulière dans l'Église, de charité, de mission, de témoignage, mais j'ai besoin d'abord de mettre à l'écoute du Seigneur, d'être comme Marie au pied de Jésus, pour ensuite m'engager dans l'Église et le monde. Et il explique en même temps, bien sûr, qu'on ne peut pas rester uniquement comme Marie au pied de Jésus, dans une prière qui nous replierait sur nous-mêmes, mais que la prière, eh bien, elle me comble de l'Esprit Saint, qui me pousse naturellement, si je ne résiste pas à l'Esprit Saint, évidemment, vers mon prochain. Alors, donc vous voyez, dans les fruits de l'adoration, bon, il y a pas mal de grâces que j'évoque, Mais il y a cette dimension ecclésiale qui est très importante. Si on prie les uns après les autres, c'est pas simplement pour se dire on est assez fort, c'est beau, c'est joli, il y a toujours quelqu'un, c'est très bien. Mais c'est en fait pour montrer que l'adoration, c'est pas Jésus, moi et c'est tout. Mais en fait, on y vient en église et on a comme une mission. Voilà. Pendant une heure, vous allez être la personne qui allait être là devant le Seigneur, dans l'intercession, dans la prière, j'ai envie de dire tendue entre le ciel et la terre, en communion avec Jésus qui sauve le monde, et par votre prière, Jésus va faire descendre, voyez, toutes les grâces qu'il a méritées au calvaire. Donc quand on vient adorer, eh bien, ça n'est pas d'abord pour nous, même si bien sûr on va déposer nos intentions, nos joies, nos peines, mais on y va d'abord dans une dimension de service pendant une heure. Voilà, je serai là, je vais veiller, tant pis si je vois rien, tant pis si rien se passe en apparence, tant pis si c'est toujours, ma vie est toujours aussi compliquée, mais pendant une heure, je veille. C'est mon tour, c'est, vous savez, on parlait de garde d'honneur au 19e siècle, après on a parlé de garde d'amour, voilà, devant Jésus, hein, c'est des termes un peu anciens, mais enfin ça exprime bien aussi ce que ça veut dire, et donc c'est ça qui nous montre... Voilà, qu'on vient adorer en église, et ça change complètement la dynamique. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui dit non, moi je préfère ne pas m'engager, je viens uniquement quand j'ai du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, je vais faire tout ce que je dois faire. Si jamais il me reste du temps, je vais aller voir le Seigneur. Vous voyez, donc c'est un peu mettre les priorités dans l'ordre inverse, hein, et donc s'il nous reste un peu de temps, on va voir le Seigneur. Généralement, il ne reste jamais de temps, de toute façon, c'est comme ça la vie, hein, et à la fin, vous voyez, on y va dans une démarche de piété personnelle. Je vais voir mon petit Jésus, bon, salut Jésus, j'ai 15 minutes, voilà, je viens de donner 15 minutes, je suis heureux d'être avec toi. Alors, c'est déjà beau, hein, c'est super, hein, c'est ce qu'on appelle la visite au Saint-Sacrement, il faut le faire quand vous avez 15 minutes passées à l'oratoire, mais on a aussi besoin de cette heure d'adoration où on est dans une dynamique complètement différente, c'est-à-dire qu'on y va comme en mission, il y a une dimension missionnaire, on va prendre son temps d'intercession, son service de la prière, c'était vraiment les mots de Jean-Paul II, le service de la prière, et pendant une heure, ben, je vais intercéder pour tous les gens, tous les paroissiens, tous ceux qui ont perdu la foi, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la joie, enfin je sais pas, bref, c'est pendant une heure, je suis là en leur nom, hein, en leur nom, ça c'était là, j'ai envie de dire un peu la spiritualité de Jean-Paul II, quand on est devant le Saint-Sacrement. Et c'est pour ça que même si c'est exigeant, même si c'est dur de s'engager à une heure par semaine, ça change tout dans notre démarche d'adoration. J'y vais pas d'abord pour moi, j'y vais en église, envoyé par l'église pour intercéder, porter l'église et le monde. Alors après, on dit souvent, moi, je vais parler un petit peu plus du troisième aspect, sur j'ai l'impression que rien se passe. Voilà. Que ça sert à rien. Je suis là pendant une heure, bon, l'hostie, ça bouge pas, et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds, je suis debout, assis, à genoux, je raconte quoi à Jésus? Il m'entend, il m'entend pas, voilà. Alors, d'abord, j'aimerais reprendre le témoignage de Charles de Foucault, hein, parce que Charles de Foucault, c'est celui qui a vraiment adoré dans le désert. Vous savez, quand vous êtes dans le désert et que vous voulez trouver l'eau, il faut creuser. Vous voyez, au début, vous creusez, vous allez à la terre, les cailloux, il n'y a rien, c'est sec. Hein, et puis ensuite, petit à petit, à force de creuser, ça commence à s'humidifier. Et si vous creusez encore, bon, s'il y a de l'eau dessous, normalement il y en a, je crois, dans le désert, enfin, je ne sais pas. Mais normalement, il y aura un moment, on va dire, où il y a de l'eau. Et on arrive, enfin, après beaucoup d'efforts, eh bien, à cette eau vive. Hein, voilà. Et l'adorateur, il est un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est un peu, il doit un peu aller dans le désert de la chapelle de l'adoration, et il va être un peu comme en train de lutter contre lui-même pour pouvoir rester là, sans bouger. Hein, souvenez-vous de Sainte Thérèse d'Avila, qui a passé dans cette oraison de temps en temps des heures où elle devait s'accrocher à sa chaise, elle avait envie de partir en courant, tellement que c'était dur. Alors, il y avait un sablier, vous savez, le sablier il durait une heure, il n'y avait pas les montres comme nous, et alors elle passait son heure à regarder hein, le sable qui descendait en se disant, allez, il faut que ça se termine, allez, vas-y, descends, descends, descends. Hein, et elle avait du mal, c'était un vrai combat terrible qu'elle a vécu, mais par sa persévérance, par sa fidélité, eh bien, le Seigneur lui a permis d'atteindre des niveaux de vie spirituelle jamais égalés, je pense, par personne, par quelques âmes d'élite très spéciales. Donc, il y a une dimension de fidélité. On est là, devant Jésus, et voilà, on fait une heure sainte. Vous savez, comme on dit, c'est ce qui sanctifie, ce qui rend leur sainte, c'est pas trop la qualité de vos prières, votre position physique, votre foi extraordinaire, ou votre charité à déplacer les montagnes, je sais pas. Non, c'est Jésus qui rend leur sainte. C'est-à-dire que lui, il nous prend tel qu'on est et il va nous sanctifier. Il va nous donner son Esprit Saint. Il va travailler. Pensez que Jésus, c'est lui le bon berger. Nous, on est petites brebis, un peu fatiguées, un peu blessées. Et donc, voilà. Laissez-vous porter par Jésus, laissez Jésus vous prendre tel que vous êtes, vous saisir dans votre réalité avec vos joies, vos faiblesses, vos limites, etc. et vous conduire vers Dieu le Père, dans la maison du Père, et le Père viendra guérir votre cœur, viendra soulager votre âme, vos problèmes, vos difficultés, choisira d'en résoudre certains, pas d'autres, pourquoi on ne sait pas, mais il faut laisser Jésus agir. Je me souviens d'un adorateur qui disait, au début, je croyais que l'adoration, c'était d'aimer beaucoup Jésus. Maintenant, j'ai compris que c'est pas ça du tout. Alors, je me dis, oula, qu'est-ce qu'il va dire? Et alors, il dit, non, l'adoration, c'est se laisser beaucoup aimer par Jésus. Et c'est beaucoup plus dur de se laisser aimer, de se laisser regarder, parce qu'en fait, on n'est pas grand-chose devant le bon Dieu, devant le Seigneur. Hein, mais en même temps, c'est ça qui compte avant tout, c'est de pouvoir laisser Jésus travailler dans notre cœur, dans notre vie, dans notre âme. Alors, Charles de Foucault, il passait beaucoup de temps devant le Seigneur, dans l'Eucharistie. Il disait, voilà, l'heure la mieux employée de notre vie est celle où nous aimons Jésus le plus. L'adoration du Saint-Sacrement est le repos, le rafraîchissement, la joie. Adorer la Sainte Hostie, ce devrait être le fond de la vie de tout humain. Quelle joie immense, mon Dieu, passer plus de 15 heures en n'ayant rien d'autre à faire que te regarder et te dire « Seigneur, je t'aime, oh quelle douce joie !» Alors, je sais pas s'il y en a qui ont la grâce de Charles de Foucault, qui adore 15 heures d'affilée en disant « Seigneur, quelle douce joie d'être là devant toi !» Voilà, alors c'était une âme un peu particulière quand même. On savait que voilà, il passait beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement, et ensuite il allait s'occuper des Touaregs, son dictionnaire, etc. Il allait s'occuper de tout ce qu'il faisait à côté. Mais c'était un grand contemplatif. Et alors il disait ceci, de son tabernacle, Jésus rayonnera sur ses contrées et attirera lui des adorateurs. Ma présence fait-elle quelque bien ici? Si elle n'en fait pas, la présence du Saint-Sacrement en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes là devant Jésus, eh bien Jésus travaille, Jésus rayonne de manière invisible, on ne sait pas trop comment, mais Jésus agit. Lorsque le pape, c'était le pape Jean-Paul II, il était venu à Montmartre en 1980-81, et il avait parlé sur le sens de l'adoration perpétuelle. Et il avait commenté le passage de Jean, chapitre 15. Vous savez, je suis la vigne, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, mais hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et alors Jean-Paul II disait, dans la Sainte Eucharistie, c'est aussi le sens de l'adoration perpétuelle, nous entrons dans ce mouvement de l'amour, d'où découle tout progrès intérieur et toute fécondité apostolique. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, vous voyez, toute fécondité, tout progrès intérieur, toute fécondité apostolique découle de cette communion avec Jésus, Jésus Eucharistie. Alors bien sûr, le centre, la source, le sommet, c'est la messe, hein, je l'ai expliqué ce matin, mais ensuite il y a un prolongement de l'adoration où on permet de prolonger, d'intensifier tout ce qu'on a reçu pendant la messe. Alors, Charles de Foucault, il voulait avoir une communauté, des frères, il voulait convertir tous les musulmans en Algérie. Voilà, on peut peut dire que c'est un peu mission ratée, hein, en soi, parce qu'il a eu zéro frère, ou dès qu'il y en a un qui est venu, il est reparti immédiatement malade à essayer de vivre comme lui. Il a converti personne, ou peut-être une personne qui passait par là et encore, bon, on sait pas trop. Il a baptisé un ou deux bébés dans toute sa vie, et c'était tout. Alors on peut dire quel échec, hein. En soi, c'est vrai que c'est un échec au point de vue humain. En tout cas, c'est un échec total. Et pourtant, on sait que à sa mort, après sa mort, Dieu a donné à Charles de Foucault combien de familles spirituelles qui ont trouvé leur inspiration, leur spiritualité dans sa propre spiritualité, dans son témoignage de vie. Il voulait une communauté. Il en a donné en fait des dizaines, des centaines. Ben, le Seigneur a béni différemment, voyez, pas comme il le souhaitait. C'est-à-dire que Charles de Foucault nous apprend à entrer dans la pauvreté eucharistique. Bien sûr qu'on demande plein de choses au Seigneur, mais le Seigneur nous donne ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Hein. Alors, après, de temps en temps, bon, il y a des grâces très, 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 très visibles, mais très souvent, ça peut être aussi très caché. Mon évêque à Toulon disait, il rassemblait les prêtres et il disait, vous savez, tantôt on va faire beaucoup d'efforts ici, on va semer, on va labourer, on va semer, on va planter, on va arroser, et puis il n'y a rien qui se passe. Mais quand on se retourne, on voit que ça a poussé de l'autre côté. Alors on se dit, alléluia, hein, Seigneur, tu es grand, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts ici, il n'y a rien, mais ça pousse ici grâce à toi, et le Seigneur, voilà, c'est-à-dire que il faut laisser dans cette dynamique de l'adoration Jésus répondre, voilà, il va certainement agir beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, mais pas toujours comme on le souhaite. Pourtant, il nous demande quand même d'avoir une prière, hein, je veux dire, il faut aussi offrir à Jésus nos intentions et laisser ensuite Jésus répondre comme il le souhaite. Alors, lorsque nous venons adorer le Saint-Sacrement, vous savez, je pense que de temps en temps, le Seigneur, il peut donner la grâce qu'on mérite d'un certain côté en faisant l'effort de venir à une personne qui en a plus besoin. Certainement qui nous donne une grâce à nous, mais pas toujours sensible, même si de temps en temps, on aimerait bien ressentir un petit peu sa présence, sa paix, sa lumière, sa joie, puis on ressent rien du tout, on a l'impression que ça marche pas du tout. Mais je pense que dans cette communion des saints, c'est très possible que le Seigneur donne cette grâce qu'on mérite, parce qu'on est là quand même, à une autre personne de notre famille ou à quelqu'un à l'autre bout du monde. Et peut-être qu'inversement, ça vous est arrivé de sentir un moment où ça n'est pas que quelqu'un prie pour vous. Voilà. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour vous. C'est peut-être quelqu'un à l'autre bout du monde qui galère dans son adoration, hein, dans son heure d'adoration, et c'est vous qui avez reçu la grâce. Voilà. Alors, il faut rester dans cette grande pauvreté, parce que dans l'Eucharistie, il y a ce mystère de pauvreté qui est là pour laisser Dieu agir comme il veut. J'aimerais parler un instant de la position du corps. Vous savez, on a souvent un petit peu voulu trop spiritualiser notre foi chrétienne en disant tout ce qui compte c'est le cœur, etc. Bien sûr, c'est évident que c'est le cœur et c'est ce qui se passe dans le cœur qui touche Jésus, hein, je veux dire. Mais n'oublions pas que l'adoration, c'est, on est appelé à adorer dans notre personne, dans notre être, avec le corps et le cœur, le corps et l'âme, voyez, et l'esprit. Et c'est vrai que j'ai remarqué que la position physique, vous voyez, mettre son corps en adoration, eh bien, va faire que notre âme va se mettre toute seule en adoration. Mais souvent, si on néglige trop la position du corps, eh bien, on risque de passer à côté, d'avoir plus de mal à prier. Donc, c'est vrai que si on peut, je vous dis, si on peut, c'est pas du tout une obligation, faire une bonne génuflexion, une prostration, vous voyez, s'agenouiller profondément devant le Seigneur, comme on voit dans le livre de l'Apocalypse, tous ceux qui sont devant Dieu, qui déposent leur couronne, c'est-à-dire tout ce qu'ils font au pied du Seigneur, qui sont prosternés devant le Seigneur, c'est vrai que ça nous aide, vous voyez, ça nous aide à adorer. Hein, souvent on dit, moi je veux pas me mettre à genoux, parce que quand je mets à genoux, je pense pas à Jésus, mais je pense à mes genoux. Alors moi j'ai envie de dire, oui, mais très souvent quand on se met assis, on pense ni à ses genoux, ni à Jésus, hein, voilà. Alors, c'est vrai que le fait, vous voyez, si on peut, hein, si on peut, de commencer par ça, après, bien sûr, on va prendre une position confortable, hein, le but, c'est pas d'avoir mal dans son corps, mais vraiment, ne négligeons pas notre corps, parce que ça fait partie de notre personne, et il faut adorer dans toute la personne. Après, je vois quand on a des distractions, par exemple, voilà, on commence à genoux, puis on s'assied, on lit, on médite, et à un moment, on a l'esprit qui est complètement ailleurs, le simple fait de se remettre à genoux quelques instants nous remet devant le Seigneur dans la juste attitude. Vous voyez ? Alors, c'est qu'un moyen, j'ai envie de dire, mais la position du corps, mais quand même, ne négligeons pas cela. Alors, quand on vient adorer, vous savez, il y a toujours la question des grâces sensibles. On commence à adorer parce qu'on nous a dit que c'était bien, donc on va dire, bah, tiens, je vais essayer d'adorer, on verra bien ce que ça donne. Première fois qu'on y va, c'est plus par obéissance, je veux dire, à notre curé ou à je ne sais qui. Et puis, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est vrai que, waouh, on ressent cet amour-là, on se dit, c'est incroyable. Ce qui se passe dans cette chapelle, dans cet oratoire, on est tellement bien, on sent qu'il y a une paix, on sent qu'il y a vraiment une présence incroyable, et on se dit, c'est super ce truc, l'adoration, ça marche, Jésus est vraiment là, et je vais venir chaque semaine. On est tout content. Et puis un beau jour, il fait pas beau, on est fatigué, on a plein de problèmes, plein de boulot, plein de trucs, on se dit, oh là là, bon allez, on va y aller, il faut y aller. Et puis on commence à arriver, au bout d'une minute, on regarde sa montre, on a l'impression qu'il y a déjà 20 minutes qui sont passées, il n'y a que 2 ou 3 minutes qui sont passées, on se dit, aujourd'hui c'est tellement dur, alors on peut avoir des pensées du type, peut-être que le père Escudier s'est trompé, il a mis une hostie non consacrée, alors ça marche pas, vous voyez, hein, je sais pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui, je comprends pas. Et puis, non, c'est pas ça. C'est que le Seigneur, il vient un peu éprouver, vous voyez, notre foi. C'est-à-dire que si on, au début, on est attiré par les grâces sensibles, hein, et donc, le problème, c'est qu'après, si on reste trop attaché à ça, en gros, je vais aller adorer, non pas pour Dieu, mais pour ce que je reçois, parce que je me sens bien, parce que je sens l'amour, je sens la joie, la paix dans ce lieu, donc je suis content. On en fait une sorte, un petit yoga spirituel, personnel, hein, mais en fait, on n'est plus dans l'adoration. Donc Jésus, à un moment, tac, il coupe le côté un peu sensible, vous savez, et puis là, on est là, on ressent plus rien du tout. Hein. Et à ce moment-là, le Seigneur nous invite à faire un pas supplémentaire, vous voyez, à rentrer dans une adoration en esprit, en fait, et en vérité. Non pas une adoration sensible, même si on est très sensible quand même, donc il nous touche dans notre sensibilité, et on a besoin de ça pour être encouragé. Mais le Seigneur nous invite à faire un pas de plus et à venir adorer, non pas pour ce que je vais recevoir, mais pour Dieu lui-même. Si je reçois, tant mieux. Si je reçois rien, tant mieux. Je suis là devant le Seigneur, ce qui compte c'est d'être là. Il m'appelle, il m'attend, il me désire, il m'invite. Donc je vais le rencontrer, j'intercède, je prie. Si je ressens plein de choses, merci Seigneur. Si je ressens rien, merci Seigneur. Vous voyez ? Et donc ça, c'est quand quelqu'un me dit, moi j'arrête d'adorer parce que je ressens plus rien, j'ai envie de dire, non mais là tu n'as pas commencé à adorer. Au contraire, on ne va pas adorer pour ressentir. Hein, c'est pas ça l'adoration. Alors le Seigneur, dans cette adoration hebdomadaire d'une heure, il va vraiment éduquer, former, j'ai envie de dire forger, hein, ma propre spiritualité à travers beaucoup de difficultés, d'épreuves. Hein, je vous disais que c'était le désert, il faut creuser, c'est dur, c'est long, c'est pénible, on a l'impression que rien se passe. Et pourtant, eh bien, il y a tout un dynamisme spirituel qui se passe véritablement parce qu'on ne peut pas être là, dans les mains du Seigneur, posé sur son cœur, hein, sans qu'il transforme ma vie de l'intérieur. Alors, il me reste 2 minutes ou 3 minutes. J'aimerais juste donner, voilà, quelques petits conseils spirituels de Saint-Pierre, Julien et Marc. Enfin, j'en ai déjà donné quelques-uns. Voilà. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour. Et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir ? L'amour est la seule porte du cœur. Voilà. En d'autres mots, quand vous rentrez dans la chapelle d'adoration, vous laissez tous vos problèmes, vos soucis, vos difficultés à la porte et vous entrez pour aimer Jésus. Il est là, il vous aime, vous allez l'aimer. Voilà. Premier temps de l'adoration, c'est ce temps, voilà, d'amour, d'adoration pure, de remerciement, parce que l'adoration, vous voyez, on va apprendre à se décentrer de soi-même pour pouvoir se centrer sur Jésus-Christ. Il y a un décentrement. Je passe du moi au toi. Et pour passer du moi au toi, il faut laisser son moi un petit peu à la porte, c'est-à-dire tous ces petits problèmes, pour être disponible à accueillir le toi, le Jésus, hein, qui est là. Et à la fin de l'adoration, il y a un moment, bien sûr, où on va ramener, ben oui, ses intentions, les offres à Jésus, on demande au Seigneur de nous aider dans nos épreuves, nos difficultés, nos soucis. Mais voilà, l'adorateur, hein, c'est celui qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute », et non pas, comme on dit si souvent, « Écoute, Seigneur, ton serviteur, parle ». Voilà. Alors, on peut parler au Seigneur, hein, mais avant tout, ce qui compte, c'est de se mettre à son écoute. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, ensuite, on peut préparer son heure d'adoration. Hein, dites-vous, regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y, comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 3 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Voilà. Donc, de même qu'on peut préparer se préparer personnellement, si on est invité par une personne que l'on estime profondément, bien sachez que là on est invité par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, notre seigneur qui est là, qui nous attend, qui nous désire, hein. On est désiré par Jésus, et il est tellement heureux lorsqu'on vient le rencontrer. Donc savoir préparer son cœur, une heure de paradis, l'Eucharistie étant le ciel sur la terre. Alors, prenez la parole de Dieu, c'est important de pouvoir, voilà, lire le texte du jour, de découvrir que ce que Jésus a fait, il veut le faire pour moi. Ce que Jésus a fait dans la vie des gens qui viennent le rencontrer, certainement dans ces gens, je m'identifie un peu, d'une manière ou d'une autre, et Jésus, il veut le faire pour moi. Je regarde comment ils ont approché Jésus, je vais essayer de les approcher de la même manière. Hein, regardons Marie-Madeleine au pied de Jésus, qui donne ce parfum de grande valeur, 300 deniers, c'est une année de salaire. Imaginez-vous, une année de salaire que vous mettez dans un parfum, et hop, sur Jésus. Quel cœur, quel amour, hein, qu'elle avait pour le Seigneur. Et donc nous, voilà, une heure de notre temps qu'on donne à Jésus, voilà, on donne le meilleur. Une heure, c'est énorme, hein, déjà, on le sait tous qu'une heure, c'est tellement difficile de tenir une heure pour Jésus. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que l'adoration, il y a la messe d'abord, puis il y a toutes les autres manières d'aimer le Seigneur, d'autres manières. Mais là, voilà, on va puiser à la source de l'amour pendant une heure. Donc, découvrir, voilà, ce que Jésus a fait dans l'Évangile, il veut le reproduire pour moi. Et donc, j'ai envie de dire, transporter le Saint-Sacrement dans l'Évangile, ou l'Évangile dans le Saint-Sacrement, et vous aurez Jésus vivant, hein, pour vous, qui agit et qui va faire pour vous ce qu'il a fait dans l'Évangile. On demande souvent, est-ce qu'on peut prier le chapelet devant le Saint-Sacrement? Est-ce qu'on peut regarder Jésus et dire « Je vous salue Marie » Alors, on va dire oui et non, mais j'ai envie de dire plutôt oui que non quand même, hein, parce que chaque fois qu'on regarde Marie, elle tourne notre regard vers Jésus. Et en même temps, Marie, elle vient comme, eh bien, purifier ma démarche, purifier ma foi, augmenter ma charité, mon amour pour Jésus, et avec Marie, eh bien, je vais adorer Jésus. Mère Teresa de Calcutta commençait son heure d'adoration quotidienne par le chapelet, parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle avait envie de commencer son adoration, et c'était Marie qui, voilà, qui la mettait dans une attitude juste pour être au pied de Jésus, et après les 40 minutes qui restaient, c'était un temps de silence où elle laissait Jésus parler à son cœur. Alors, Saint-Pierre Jumet et Marc, il aimait bien couper en 4, un premier temps d'adoration pure, « Seigneur, je t'adore, je t'aime, je me prosterne devant toi », un temps pour remercier Jésus pour tout ce qu'il m'a donné dans ma semaine, dans ma vie, etc., un temps pour demander un pardon pour mes péchés, pour ceux du monde entier, et pour réparer, etc., et un temps pour demander à Jésus de bénir, hein, mes intentions, de répondre à ma prière et aux intentions de toutes les personnes que je connais. Voilà. Alors après, il n'y a pas de méthode. À vous de faire comme vous voulez. Si vous parlez avec votre cœur, si vous avez rencontré Jésus, à ce moment-là, eh bien, vous êtes dans la juste attitude. L'adoration de combat, hein, Saint-Pierre, Julien et Marc disaient, vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez votre âme vers le ciel comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil, pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse. Tout se révolte en vous, tout vous porte à quitter l'adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette spécieuse tentation, c'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, vous ne lui déplaisez pas, vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Vous voyez, Seigneur, il nous attend dans cette heure de prière. Alors, on va avoir un temps d'adoration dans 13 minutes, là, un petit quart d'heure. Je vais peut-être m'arrêter là, je ne sais pas s'il y a un petit temps de questions-réponses. Oui, Bruno, s'il y a une ou deux questions. Alors, je voulais juste dire, j'ai apporté, s'il y en a, ils sont intéressés. Alors, déjà, le plus important, c'est si vous voulez faire partie des adorateurs fixes, on a besoin, surtout l'après-midi, si j'ai bien compris, de renfort. S'il y a des adorateurs du matin ou du soir qui pourraient se décaler l'après-midi, vous serez bienvenus parce que les horaires d'après-midi sont les horaires où il y a le moins d'adorateurs. Voilà. On a besoin toujours plus d'adorateurs. Donc, si vous voulez nous aider, vous pouvez prendre un papier, un crayon. Voilà, Bruno en a ici. Alors, en même temps, sur la petite table intermédiaire, s'il y en a qui veulent s'abonner au Brasier Eucharistique, c'est cette petite revue qu'on publie. Alors, c'est une petite revue de ma petite communauté. C'est avec des textes des papes, enfin, tout ce qui tourne autour de l'Eucharistie, avec des témoignages de paroisses. Voilà, vous pouvez prendre un Brasier Eucharistique pour regarder si vous ne connaissez pas. Il y a un bulletin d'inscription aussi. Et puis, il y a deux ou trois livres qui peuvent nous aider aussi à adorer sur la petite table. Hein, vous pouvez passer regarder ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions avant qu'on prenne ce temps d'adoration? S'il n'y a pas de questions, c'est super. C'est le Seigneur qui répond, hein. C'est le Seigneur seul qui, voilà, qui répond à notre soif d'être aimé dans l'Eucharistie. Voilà, donc on fait une petite pause de 5-10 minutes, et puis on expose dans voilà une petite dizaine de minutes. Ensuite, on aura une adoration animée, je vais répondre, voilà, une adoration animée en trois temps avec quelques musiciens, je crois, qui nous aideront à prier. Oui. Alors, on peut sanctifier ces distractions. Je veux dire, si par exemple, vous êtes en train de penser à un rendez-vous compliqué que vous avez le lendemain, eh bien, priez pour ce rendez-vous-là. Si c'est dans votre tête, de toute façon, que c'est un souci, que c'est une épreuve, que c'est difficile, c'est évident que ça sera dans votre tête, que vous ne pourrez pas trop vous concentrer sur Jésus, mais que vous vous concentrerez sur cette réalité qui est dans votre vie. Donc, priez, offrez au Seigneur ce rendez-vous, priez pour la personne que vous avez rencontrée. Voilà. Si on pense à quelque chose qu'on a complètement oublié de faire, je ne sais pas, vous pouvez prier pour la personne que vous avez, que vous auriez dû rencontrer, vous avez raté un rendez-vous, vous pouvez prier pour cette personne, pour que le Seigneur vienne lui donner une grâce particulière dont il aurait besoin. Donc, vous voyez, les distractions, elles sont toujours là, c'est normal. Généralement, elles sont plutôt là en début d'adoration qu'en fin d'adoration. C'est pour ça que le fait de venir prier une heure, ça nous aide. Souvent, c'est dans la deuxième partie de l'adoration que l'esprit est plus au calme. Ça, c'est pour les adorations de jour, pour les adorations de nuit. On dit que c'est plus difficile l'adoration de nuit. Non, il y a une minute qui est difficile, c'est la minute où le réveil se met à sonner. Alors ça, c'est un peu traumatisant, cette minute-là. Mais quand la minute est passée, ensuite, c'est que du bonheur, hein, d'être devant le Saint-Sacrement. Voilà. Quand vient le jour, c'est vrai qu'on est entre, on a eu plein de rendez-vous et après on a d'autres rendez-vous. C'est vrai que l'esprit, il est un peu, vous savez, mais c'est normal. On offre tout ça au Seigneur, il ne faut pas s'en faire. Voilà. Oui, alors Bruno me demande, oui, il y a deux ou trois bouquins, un pour des prières, pour aider à adorer. Il y a le livre de Saint-Pierre Julien Aymar, voilà, qui est là-bas, il y a quelques pins, enfin trois bricoles. Une dernière question. Alors, on va petit à petit exposer le Saint-Sacrement.